Bonjour, nous sommes le 24 décembre 2025. C'est un moment de l'année qui est souvent tourné vers l'avenir, vers l'espoir. Mais parfois, pour bien penser cet avenir, il faut oser regarder en face les questions les plus sombres, celles qui pèsent sur lui.
Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Oui, exactement. On va s'appuyer sur un article de Julien Lecomte du site Philosophie, Médias et Société. Et on va s'attaquer à un sujet qui peut sembler un peu lointain et pourtant terriblement présent, la menace nucléaire.
L'idée, c'est pas juste de faire une liste de faits, mais vraiment de plonger dans ce que cette menace dit de nous, sur un plan psychologique, philosophique. C'est un sujet lourd, c'est vrai, mais je pense qu'il est essentiel.
Et pour comprendre tout ça, il faut forcément revenir au point de départ, à l'année zéro de cette nouvelle ère.
1945.
1945, c'est le moment du basculement. Le moment où l'humanité a acquis la capacité technique de provoquer sa propre fin. Tout ce dont on va parler, toute cette angoisse, ces dilemmes, ça découle de ce moment-là.
Alors, allons-y. Commençons par les faits bruts, justement. Le 6 août 1945, Hiroshima. Le bilan, c'est, on l'estime, à 140 000 morts.
En un instant.
Et trois jours après, Nagasaki. 74 000 de plus. Les chiffres sont déjà écrasants, mais ce qui m'a vraiment frappé dans la source, c'est un détail. Un détail qui montre que l'horreur n'a pas de date de fin.
Ah oui.
L'article précise qu'en 2015, donc 70 ans après, les hôpitaux de la Croix-Rouge japonaise traitaient encore des victimes d'irradiation, des gens qui développaient des cancers, des leucémies.
7 décennies plus tard.
Voilà, l'impact est toujours là.
C'est ça qui est fondamental à comprendre. L'arme nucléaire, c'est pas juste une explosion. C'est un poison qui dure des générations. Et le plus terrifiant, c'est que la technologie de 1945, ce n'était qu'un début.
Le tout début.
On est immédiatement entré dans une course à l'armement, une surenchère complètement folle. La puissance est devenue exponentielle. L'article explique bien le passage de la bombe A, celle d'Hiroshima, à la bombe H, la bombe à hydrogène.
Et pour illustrer ça, il y a cet exemple de la Tsar Bombe.
Ah, la fameuse bombe soviétique.
Oui.
Testée en 1961, sa puissance était de 57 mégatonnes. Alors pour que ce chiffre ait un sens, il faut comparer.
Oui, parce que comme ça, ça ne dit rien.
C'est près de 4000 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima.
Attendez, 4000 fois, c'est un chiffre qui ne veut plus rien dire. C'est de l'ordre de l'abstraction pure.
C'est presque impossible à se représenter, oui.
Comment on peut même imaginer un truc pareil ?
C'est pour ça que l'article s'appuie sur un outil, le simulateur Nukemap, qui aide à visualiser l'impact. Et les résultats sont, apocalyptiques. Si cette unique bombe était larguée sur New York, le simulateur calcule 8 millions de morts instantanées.
8 millions.
Et 6,6 millions de blessés, en une fraction de seconde. L'article propose même des simulations pour Paris ou Bruxelles, et là on voit des cercles de destruction totale qui rayent de la carte des régions entières.
C'est à peine concevable. Et pourtant, ce qui est contre-intuitif, c'est que l'article dit que cette bombe monstrueuse, ce n'est même pas le vrai danger aujourd'hui.
Exactement. Et c'est une nuance très importante, soulevée dans la source via un commentaire. Il rappelle que la Tsar Bomba, c'était une aberration, un monstre expérimental, une démonstration de force. Mais elle n'a jamais été pensée pour un arsenal opérationnel.
D'accord.
Le danger actuel, en fait, il est peut-être plus insidieux. Il vient de la prolifération d'armes nucléaires plus raisonnables, si on peut oser ce mot.
Des armes raisonnables, c'est-à-dire plus petites,
qu'on pourrait être plus tenté d'utiliser.
Voilà.
On parle d'armes tactiques, conçues pour être utilisées sur un champ de bataille. Le problème, c'est que ça brouille complètement la ligne entre guerre conventionnelle et guerre nucléaire.
Le tabou devient plus fragile.
Le seuil psychologique, exactement. Ce tabou qui a tenu depuis 1945. Et quand on voit la liste des pays qui ont l'arme aujourd'hui, Israël, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, la menace n'est plus ce face-à-face entre deux blocs. Elle est plus diffuse.
Plus imprévisible.
Ce pouvoir de destruction, qu'il soit immense ou plus tactique, ça nous amène forcément à une question vertigineuse. Comment est-ce qu'on vit en tant qu'espèce avec la certitude qu'on peut s'anéantir nous-mêmes ?
Je crois que l'article aborde ça d'un point de vue philosophique.
Oui, et c'est passionnant. Il convoque le penseur Hans Jonas, et son analyse est saisissante. Il dit que pour la première fois de son histoire, l'humanité en tant que collectif a acquis le pouvoir de se suicider.
Comme un individu.
Exactement de la même manière. Ce n'est plus une météorite, une catastrophe naturelle qui peut nous anéantir, c'est une décision, une décision qui est entre nos mains.
Et ça, en termes de responsabilité, ça change tout, j'imagine.
Ça change absolument tout. C'est le cœur de son livre « Le principe responsabilité ». Face à ce pouvoir démesuré, il faut une responsabilité démesurée. Jonas explique que l'humanité devient à la fois l'acteur et la victime potentielle.
Le sujet et l'objet.
C'est ça, c'est nous qui tenons l'arme et c'est nous qui sommes dans le viseur. Et face à ça, il dit que les anciennes morales, elles ne suffisent plus. Il faut un nouvel impératif.
Une nouvelle règle d'or pour notre époque. Quelle est cette règle d'or ?
En gros, l'idée, c'est une version moderne du « pense aux générations futures », mais en beaucoup plus grave. Le principe, c'est « ne prends jamais une décision qui pourrait compromettre la possibilité même pour l'humanité de continuer à exister ». La citation dans l'article est plus formelle. « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre ».
C'est exactement ça.
C'est puissant.
Mais alors, comment les États qui détiennent ce pouvoir le justifient-ils, malgré cette responsabilité écrasante ?
L'article parle de l'argument du pragmatisme.
Oui, du mal nécessaire.
C'est l'argument classique. Pour éviter un mal encore plus grand, une invasion, une tyrannie, on doit posséder cette force de dissuasion. C'est l'ultime recours.
Sauf que.
Sauf que, comme le montre très bien l'article, cette logique est un piège. C'est un raisonnement parfaitement circulaire.
Un raisonnement circulaire, c'est-à-dire ?
Bah, ça se résume à une formule toute simple. Puisque les autres sont armés, nous devons être armés. Et le voisin dit la même chose. Et son voisin aussi. On ne questionne jamais le point de départ.
Jamais. On présente comme une nécessité ce qui n'est qu'un état de fait qu'on a nous-mêmes créé.
Ah oui, c'est exactement la logique du débat sur les armes à feu aux États-Unis que l'article cite. Mon voisin a une arme, donc je suis en danger. La solution, j'achète une arme aussi.
C'est précisément ça. En logique, on appelle ça une pétition de principe. On justifie l'armement par la nécessité de s'armer. C'est un serpent qui se mord la queue et qui nous enferme dans cet équilibre de la terreur.
Un équilibre extraordinairement précaire qui peut basculer à tout moment. Une erreur, un malentendu, un coup de folie.
Et pour maintenir cette logique, j'imagine qu'on se raconte d'autres histoires. L'une des plus connues, et l'article en parle, c'est cette petite phrase. « Ce ne sont pas les armes qui tuent, ce sont les gens. » Oui, c'est une tentative de déconnecter l'outil de sa fonction. L'article répond à ça avec un argument de bon sens. « L'objet n'est jamais neutre. » Ben non, c'est matériellement plus difficile de tuer 10 personnes avec un bâton qu'avec une mitrailleuse. Le potentiel de destruction est inscrit dans l'outil. Mais l'article va beaucoup plus loin en introduisant un concept psychologique absolument central, le désengagement moral.
Le désengagement moral. Alors, si je comprends bien, c'est une sorte de mécanisme de défense, une façon de mettre sa conscience en veilleuse pour pouvoir faire des choses inacceptables. Un ordinaire de participer à des actes extraordinairement destructeurs sans se sentir monstrueuse.
L'article fait le lien avec la banalité du mal d'Anna Arendt.
Oui, avec ces bureaucrates nazis comme Eichmann, qui organisait un génocide en se voyant comme de simples rouages d'une machine. Ils se contentaient de suivre les ordres, ils avaient mis leur jugement moral sur « off ».
Et là où ça devient vraiment effrayant, c'est que l'article suggère que toute la technologie de la guerre moderne est conçue pour nous pousser vers ça, vers ce désengagement. C'est presque une fonctionnalité, pas un bug.
C'est le point crucial. L'article retrace cette évolution. Pendant des siècles, tuer, ça a impliqué un contact physique, voir sa victime dans les yeux.
Puis le fusil a créé une première distance.
Puis l'artillerie, l'aviation. On ne voit plus des gens, on voit des cibles, des objectifs, déshumanisés par la distance.
Jusqu'à aujourd'hui, les drones. Le pilote est dans un bureau climatisé à des milliers de kilomètres. Il regarde un écran, des pixels. Tuer se rapproche d'un jeu vidéo.
La déconnexion est quasi totale. Et avec l'arme nucléaire, on atteint le sommet de cette déconnexion. La personne qui appuie sur le bouton, elle est à l'extrémité d'une très longue chaîne. Son geste, tourner une clé, entrer un code, est complètement déconnecté de la réalité de ce qu'il déclenche.
La mort de millions de personnes.
Et c'est ce qui amène l'auteur à formuler le grand paradoxe de notre temps.
Oui, il faut que je le cite, parce que cette phrase est une claque. Aujourd'hui, les actes de guerre n'ont jamais eu autant de potentiel destructeur et ceux qui les commettent n'ont jamais été autant déconnectés de ce potentiel.
Cette phrase résume tout. C'est le nœud du problème.
Elle fait froid dans le dos. En fait, ce que l'article nous dit, c'est que notre capacité à détruire augmente de manière exponentielle, mais notre capacité à ressentir le poids moral de cette destruction, elle, diminue.
Absolument.
C'est peut-être ça la vraie menace. ce décalage monstrueux.
C'est une dissonance cognitive à l'échelle de notre civilisation. Le geste le plus anodin, appuyé sur un bouton, peut avoir les conséquences les plus monstrueuses de toute l'histoire. Et la source précise que les technologies actuelles, l'IA, les systèmes autonomes, ne font qu'accélérer cette tendance.
On conçoit des armes qui facilitent le meurtre de masse.
Y compris d'un point de vue psychologique, en maximisant cette distance morale.
Bon, si on essaye de rassembler les pièces du puzzle, on est parti d'Hiroshima, on a vu l'escalade de la puissance avec la Tsar Bomba, tout en comprenant que le danger actuel est peut-être plus diffus.
Plus tactique. Ensuite, on a vu la responsabilité philosophique immense que ça fait peser sur nous, avec Hans Jonas, et l'idée que l'humanité peut se suicider. Et enfin, ce mécanisme psychologique central, le désengagement moral. Cette distance qui s'installe entre nous et nos actes, une distance creusée par la technologie elle-même.
C'est ça. Si on doit résumer le danger, ce n'est pas seulement le scénario d'une guerre totale. C'est la combinaison de trois choses. La banalisation de la menace, la prolifération et surtout, cette déconnexion psychologique qui rend l'impensable possible.
Un pouvoir sans précédent, couplé à une conscience morale qui s'amenuise.
Voilà le véritable cœur du problème. Et l'article, pour conclure, ouvre sur une dernière piste. La suite logique de tout ça. Le rôle grandissant de l'automatisation, de l'intelligence artificielle dans les systèmes d'armement.
Ouais.
Ça laisse une dernière question en suspens. Une question qui prolonge toute cette réflexion.
On a vu que la distance éloignait l'humain de la conséquence de ses actes. La prochaine étape, c'est de l'éloigner de la décision elle-même. Si la décision de lancer une attaque est de plus en plus déléguée à des systèmes automatisés, pour des raisons de vitesse, de réaction...
À quel moment le jugement moral humain, déjà si fragile, si distant, disparaît-il complètement de l'équation?
Et qui est responsable, à la fin, quand c'est la machine qui prend la décision ultime?
C'est peut-être ça l'étape finale.
L'étape la plus terrifiante de ce désengagement moral, oui. Le moment où il n'y a même plus besoin de se désengager, parce que nous ne sommes tout simplement plus dans la boucle.